Les mystères du Palais Royal, deuxième partie. Chapitre 25. L'étoile de Raoul. Gertrude, paralysée en quelque sorte par la stupeur et l'épouvante, avait assisté muette et immobile à toute la scène que nous venons de décrire. Elle était pareille à une pétrification hideuse. Elle semblait ne rien voir et ne rien entendre. Mais quand Léonard fut tombé pour ne plus se relever, quand elle l'eut vu se débattre dans les secousses de l'agonie, quand elle comprit qu'il était bien mort, alors elle s'abandonna tout entière à une aveugle fureur et à une ardente soif de vengeance. Elle poussa des hurlements rauques, elle sembla prête à se précipiter sur Raoul. Ce dernier, qui ne se souciait point de soutenir une lutte corps à corps contre cette mégère enragée, décrivit un moulinet rapide avec son épée qu'il avait retirée du corps de Léonard. Gertrude sentit bien qu'elle se briserait contre cette muraille d'acier mouvant qui la tenait à distance. Elle n'avança point, mais elle ramassa tous les objets qui se trouvèrent à portée de sa main et elle les lança au visage de Raoul, qu'elle atteignit deux ou trois fois et auquel le broc de terre, en se cassant sur son front, fit même une blessure légère. Un si mince résultat ne pouvait certes contenter Gertrude. L'impuissance de ses efforts redoubla sa furie. Une écume, semblable à celle des épileptiques, vint mouiller les coins de sa bouche. Ses yeux s'injectèrent de sang, et selon toute apparence, elle allait tomber foudroyée par l'excès même de la rage qui l'obsédait, quand soudain, elle avisa le mousquet placé dans un coin, presque à portée de la main. Un cri de joie sauvage, guttural, pareil au mugissement d'une hyène, s'échappa du gosier contracté de la bohémienne. Prompte dans ses mouvements comme une tigresse qui bondit sur sa proie, elle saisit l'arme, elle ajusta Raoul et elle pressa la détente. Un éclair raya les ténèbres naissantes, car, en s'emparant du mousquet, Gertrude avait laissé tomber son falot, dont la flamme agonisait à terre. Une détonation retentit, et une balle, sifflant à quelques lignes du front de Raoul, alla traverser les planches qui formaient les murs de la hutte. La main tremblante de Gertrude avait trahi son désir de vengeance. Monsieur de la Tremblay ne lui laissa pas le temps de se reconnaître et de revenir à la charge. Il lui arracha le mousquet, le saisit par le canon, et le faisant tournoyer avec une violence extrême, il le lança dans la direction de la vieille femme. La torche venait de s'éteindre, l'obscurité était compacte. Un bruit mat, suivi d'un cri étouffé et du retentissement de la chute d'un corps, apprit à Raoul que le coup avait porté. Alors, sans s'inquiéter de savoir si Gertrude était vivante encore ou si elle était déjà morte, le jeune homme chercha à tâtons l'issue de la masure. Il finit par la trouver, et il quitta en chancelant cette demeure maudite qu'emplissaient les tièdes émanations du sang humain fraîchement répandu. Quand Raoul se retrouva sur le quai, pouvant contempler le ciel pur et brillant d'étoiles, pouvant respirer à plein poumon la brise fraîche de la nuit, il éprouva un mouvement de joie vive. Il ressentit une reconnaissance infinie envers ce Dieu auquel il lui fallait bien croire, puisqu'il l'avait si miraculeusement sauvé d'un péril si terrible. Il sentit alors tout le prix de cette vie qu'il venait de disputer au flot noir de la Seine et au coup de deux assassins. Il se dit qu'il y avait autant de courage à lutter contre la mauvaise fortune qu'à aller chercher la mort, et il renonça, pour n'y plus revenir, à ses idées de suicide. Et cependant, depuis 2 heures que Raoul avait quitté l'hôtellerie de la Toison d'Or, sa situation n'avait fait qu'empirer. Ses vêtements, imprégnés d'eau, était à peu près perdu et se collait sur son corps frissonnant qu'il glaçait par leur contact. Son épaule et le doigt de sa main gauche, entamés l'un par le crochet, l'autre par le couteau de Léonard, le faisaient cruellement souffrir. Tous ses membres étaient brisés de lassitude, et s'il ne se hâtait de regagner son gîte, la force lui manquerait pour y arriver. En outre, du mauvais état de son costume, Raoul avait la tête nue. Il n'était guère possible de traverser la moitié de Paris dans cet état sans attirer sur lui l'attention de tous les gens qu'il rencontrerait sur son passage. Cependant, il ne pouvait prendre une chaise à porteur, car nous savons de reste qu'il n'avait pas d'argent pour la payer. Monsieur de la Tremblay gagna un de ces escaliers qui, du bord de l'eau, conduisent au quai, et il retourna sur le pont neuf. Là, il eut le bonheur de retrouver son chapeau, qu'il avait placé contre une borne et qui, grâce à l'obscurité, n'avait point été remarqué. Cet incident, si insignifiant qu'il fût en lui-même, sembla d'heureux présage à Raoul et le disposa à mieux augurer de l'avenir. « Qui sait ?» se dit-il en lui-même. « La chance va peut-être tourner. Peut-être mon étoile, si longtemps voilée dans le ciel devenue sombre, va-t-elle se remontrer enfin ?» Et il reprit d'un pas plus ferme qu'il n'aurait osé l'espérer le chemin de la rue de Paradis-Poissonnière. Quand il arriva dans cette rue, une fièvre ardente faisait battre ses artères. Sa tête était en feu. Ses jambes épuisées ne pouvaient plus supporter le poids de son corps. En face de la porte de l'hôtellerie, quelqu'un semblait attendre. Raoul ne reconnut point d'abord ce quelqu'un qui allait et venait en long et en large dans les ténèbres, comme une ombre mouvante. Mais à mesure qu'il approchait, l'ombre se dirigeait de son côté, et quand il ne fut plus qu'à quelques pas, cette ombre poussa un cri de joie, se jeta à son cou, l'embrassa, le serra frénétiquement dans ses bras en murmurant « C'est vous, monsieur le chevalier! Enfin, c'est vous! Ah, mon Dieu, que je suis content! Ah, mon Dieu, que je suis donc heureux !» On devine sans peine que l'ombre en question n'était autre que le fidèle Jacques, à qui la tendresse qu'il éprouvait pour son maître faisait oublier ainsi les plus strictes convenances de respect et d'étiquette. « Merci, mon enfant, merci !» répondit Raoul, touché des témoignages d'affection que lui prodiguait son valet. « Aide-moi bien vite à monter, car je n'en puis plus, et il me semble que je vais mourir. » Jacques devint pâle en entendant ces paroles. En même temps, il s'aperçut que les vêtements du chevalier étaient ruisselants d'eau. « Au nom du ciel ! » s'écria-t-il. « Que vous est-il donc arrivé ? » « Je te dirai tout cela plus tard, mais montons, montons sans perdre une minute, sinon je vais me trouver mal. » Jacques, sans ajouter un mot, tendit son épaule à son maître, qui, s'appuyant sur lui, gagna l'escalier et atteignit sa chambre. Raoul se laissa tomber sur le bord du lit. Jacques alluma une petite lampe et vit que la main du chevalier était ensanglantée et que son front l'était aussi. Il n'osa le questionner, mais il s'empressa de laver ses deux blessures avec de l'eau fraîche. L'une et l'autre lui parurent légères. Celle du front n'était qu'une écorchure produite par l'un des éclats du broc de terre brisé sur le visage de Raoul. Le doigt était entaillé plus profondément, mais il ne pouvait y avoir aucun danger. Cette certitude rassura Jacques. Il déshabilla son maître et le coucha avec autant de soin qu'en prendrait une mère pour son enfant malade. Ensuite, il lui présenta une petite boîte, fermée par un ruban vert, que scellait un triple cachet de cire rouge. « Qu'est-ce que cela ? » demanda Raoul. « Je ne sais. Un commissionnaire a apporté cette boîte une demi-heure après le départ de monsieur le chevalier. »« De quelle part ?»« Il ne l'a pas dit. » Raoul prit la boîte. Elle était assez lourde, et la suscription portait « Pour monsieur le chevalier Raoul de la Tremblay, à l'hôtel de la Toison d'Or. » Très pressé. « Brise ce ruban et romps ses cachets, » dit le jeune homme. Jacques obéit et présenta de nouveau la boîte à son maître. Ce dernier l'ouvrit. Elle renfermait deux choses, un rouleau assez long et un carré de papier plié en quatre. Raoul défit l'un et déploya l'autre. Dans le rouleau, il y avait 25 louis. Sur le carré de papier étaient tracés ces mots « De la part d'Émeraude ».« Allons, » murmura Raoul, « je ne m'étais pas trompé. La chance tourne. L'étoile brille. » Puis la boîte et l'or s'échappèrent de ses mains. Elle retomba en arrière. La fièvre redoublait d'intensité et le délire commençait. Chapitre 26. Le logis d'Ézéchiel. La maladie qui venait de se déclarer fut terrible. Pendant 15 jours, Raoul, ballotté jour et nuit entre la vie et la mort, ne reprit pas un seul instant le libre exercice de sa raison. Tous les événements sinistres accomplis depuis la mort imprévue et foudroyante du marquis Réginald revenaient successivement dans les songes de son délire. Tantôt Raoul voyait passer de nouveau sous ses yeux la funèbre scène du repas des funérailles. Tantôt il se retrouvait auprès d'Émeraude et de Nicolas Benoît. Tantôt, enfin, il recommençait le drame inachevé de son suicide et il se débattait contre Léonard et contre Gertrude dans la masure du bord de l'eau. De semblables émotions ne faisaient qu'aggraver son mal, et sans sa jeunesse et la force de sa constitution, Raoul aurait certainement succombé. Mais, nous le répétons, au bout de 15 jours, la convalescence commença et fit de rapides progrès à la grande joie du pauvre Jacques, dont le zèle et le dévouement ne s'étaient pas démentis. À Paris et dans une hôtellerie, 15 jours de maladie coûtent cher quand il faut payer au double de leur valeur les visites du médecin, les remèdes qu'il prescrit et les soins intéressés des indifférents. Lorsque M. de la Tremblay se retrouva sur pied, il ne restait plus que 2 ou 3 des 25 louis envoyés par Émeraude à titre de tardive et bien incomplète restitution. Ses faibles ressources s'épuisèrent vite, et Raoul, après avoir cru un instant au retour de son étoile, se reprit à désespérer de l'avenir. Heureusement et fort à propos pour le ramener à des idées plus consolantes, un nouveau message lui fut apporté par le commissionnaire mystérieux qui s'était déjà chargé de remettre les 25 louis. Ce message consistait, comme le premier, en une petite boîte renfermant un bijou que Raoul reconnut à l'instant même pour lui avoir été donné par Réginald. C'était une montre d'un travail précieux et dont le cadran était entouré de diamants d'un assez grand prix. Cette montre valait 100 louis tout au moins. Un billet accompagnait l'envoi, et sur ce billet se lisait comme la première fois ces mots « De la part d'Émeraude ». « Pauvre fille !» s'écria Raoul dans un élan de reconnaissance. « C'était une belle et noble nature que les hasards de la vie ont perdue et dépravée. Pauvre fille ! Dieu ne l'avait point créée pour en faire l'associée et la complice de voleurs. Si jeune, si belle, tant de cœur, et tombée si bas. Oh, que ne vient-elle à moi qui pourrais encore l'aimer et qui la relèverait par mon amour !» Raoul disait cela et il le pensait. Et sans doute, il aurait entrepris de le faire si Émeraude fût venue. Mais Émeraude ne vint pas, heureusement pour Raoul. Cependant, M. de la Tremblay ne pouvait conserver le bijou qui venait de lui être si miraculeusement restitué. Il lui fallait, sinon le vendre, au moins l'engager entre les mains d'un tiers qui lui prêterait quelque argent sur ce gage. À cette époque, les monts de piété n'existaient pas encore, et Raoul, qui ne connaissait personne à Paris, chargea Jacques de s'informer adroitement de la demeure d'un juif prêteur sur gage, usurier et brocanteur. Le jeune homme s'acquitta sans retard de la commission de son maître et il revint au bout de 2 heures avec de très amples renseignements. Il avait l'adresse d'un maltôtier israélite, le digne Ézéchiel Nathan, qui demeurait rue Saint-Honoré, non loin du Palais-Royal, et faisait un petit trafic d'escompte et d'usure dont les bénéfices se joignaient à ceux de 7 ou 8 autres industries de genres différents. Ézéchiel vendait des chevaux, des bijoux, des étoffes. Il brocantait des meubles, des curiosités, des tableaux. On trouvait chez lui de vieux vins, de belles armes, des livres rares et précieux. Il prenait, moyennant un honnête intérêt de 60%, la signature des fils de famille, mineurs et dépensiers. Il obligeait de son argent les bourgeois un peu gênés, et les petits marchands, momentanément embarrassés, pour leurs échéances. Il prêtait aux inconnus sur des objets de toute nature et de toute valeur, et il acceptait en consignation, comme Madame la ressource de la comédie du joueur, de la vieille vaisselle au poinçon de Paris, des diamants noircis et qu'on ne saurait mettre, etc., etc., et 3 pages d'etc. « C'est bien, dit Raoul, j'irai ce soir chez ce juif. » Le pauvre garçon, provincial jusqu'au bout des ongles, avait encore cette honnête pudeur de ne pas vouloir entrer en plein jour dans le logis d'un usurier. Quand arriva la nuit, il prit la montre et se mit en route. Il ne tarda guère à arriver rue Saint-Honoré, et il chercha la maison qui lui avait été indiquée par Jacques. Cette maison, fort exiguë dans ses proportions, car elle n'avait que 2 étages de hauteur et 1 seule fenêtre à chaque étage, se trouvait située à côté d'une vaste demeure, somptueusement éclairée et dont la porte cochère, ouverte à 2 battants, conduisait à une large cour pleine de laquais et de chaises à porteurs. Raoul, en passant, jeta un regard envieux à ce magnifique hôtel, qui, supposa-t-il, appartenait à quelque grand seigneur 3 ou 4 fois millionnaire. Et il se dit avec amertume, « Moi aussi, j'aurais dû être riche. Moi aussi, j'aurais dû avoir un château, des domaines, et si j'avais voulu, un hôtel à Paris. » Mais la fatalité en a décidé autrement. Puis le jeune homme franchit les 3 marches qui conduisaient à l'unique entrée de la maison d'Ézéchiel et il frappa à la porte. Le lourd marteau, en heurtant la plaque de bronze, éveilla un écho intérieur et il sembla à Raoul qu'il entendait retentir un hurlement lointain. Quelques instants se passèrent. Raoul frappa pour la seconde fois. Alors, des pas résonnèrent dans un corridor qui aboutissait à la porte de la rue. Un petit guichet s'ouvrit et une voix fraîche et jeune demanda « Qui êtes-vous ? Je suis un gentilhomme, fort désireux d'entrer. »« Que demandez-vous ? Je demande Ézéchiel Nathan. C'est bien ici qu'il demeure, n'est-ce pas ?»« Oui. Alors, ouvrez-moi. » Mais la porte ne tourna point sur ses gonds et l'interrogatoire continua. « Que voulez-vous à Ézéchiel Nathan ?» reprit la voix jeune et fraîche. « Je veux lui parler. » « Pour affaire ?»« Oui. » « Vous attend-il ? » ? Non. « Vous connaît-il ? » ? Pas davantage. « Êtes-vous déjà venu ici ? » ? Jamais. « Qui vous envoie ? » ? Personne. « D'où savez-vous l'adresse d'Ézéchiel ? » ? Mon laquais s'est informé et on la lui a donnée. « Pourquoi venez-vous si tard ? » ? Parce que je n'ai pas pu ou pas voulu venir plus tôt, répondit Raoul, dont ces questions étranges mettaient la patience à bout. « Êtes-vous seul ? » demanda la voix. « Vous voyez bien que oui. » Il sembla au jeune homme qu'à ce moment on regardait au travers du guichet, sans doute afin de vérifier l'assertion qu'il venait d'émettre. Puis il entendit tirer successivement une demi-douzaine de verrous. Une grosse clé tourna dans une massive serrure, la porte s'ouvrit et Raoul put entrer. Celle qui venait de l'introduire après une si longue série de bizarres interrogations était une jeune fille de 18 à 20 ans. Elle tenait une petite lampe à la main, et grâce à cette lampe, Raoul put admirer sa taille cambrée et souple et ses traits merveilleusement beaux et réguliers. Elle était grande et mince, brune de peau et de cheveux, comme une vraie enfant des déserts. Son visage un peu allongé et ses grands yeux, fendus en amande et d'un éclat incomparable, offrait le type oriental dans sa beauté la plus traditionnelle et la plus pure. Telles devaient être les vierges hébraïques quand le peuple de Dieu abandonnait en une seule nuit le palais des pharaons oppresseurs et la terre maudite de l'Égypte. Elle s'aperçut de la vive admiration que Raoul éprouvait en la regardant. Un sourire presque dédaigneux effleura ses lèvres, aussi rouge que du corail humide. De sa main petite et nerveuse, elle repoussa les verrous qu'elle avait tirés et elle dit « Venez avec moi, monsieur, je vais vous conduire à mon père. » Raoul suivit cette enchanteresse qui parcourut en marchant devant lui un corridor assez long, aboutissant à une petite cour. À mesure que les deux jeunes gens avançaient, les hurlements que monsieur de la Tremblay avait entendus devenaient plus distincts et plus terribles. Enfin, Raoul aperçut un énorme chien des Abruzzes, l'œil sanglant, la gueule écumante et le poil hérissé, enchaîné dans un des angles de la cour. Sans doute, chaque nuit, on mettait en liberté cette sentinelle farouche et vigilante qui gardait la maison d'Ézéchiel mieux que ne l'aurait pu faire une escouade de soldats du guet. Chapitre 27. Nathan. La Juive et Raoul traversèrent la petite cour et gravirent les premières marches d'un escalier en bois vermoulu qui tremblait et craquait sous les pas. Une porte s'ouvrit à l'étage supérieur et une voix cria avec un accent italien très prononcé. « Déborah ? » ?»« Mon père ?» répondit la jeune fille en s'arrêtant. « Qui frappait ?»«
Un gentilhomme qui demande à vous parler pour affaire. »
« Où est-il ce gentilhomme ?»«
Là, avec moi. »
« C'est bien. Laisse-le venir seul et va-t'en dans la salle basse, rejoindre la fille du diable. »«
J'y vais, » dit simplement Déborah.
Elle se retourna vers Raoul et ajouta « Vous entendez, monsieur, mon père vous attend. Montez !» Et la Juive, se rejetant rapidement en arrière, disparut aux yeux de Raoul. Le jeune homme resta pendant quelques secondes immobile et cherchant le sens des paroles qu'il venait d'entendre. « La fille du diable !» Cette qualification étrange pouvait-elle s'appliquer à une créature humaine ? Quelle femme consentirait à porter cette appellation diabolique ? Une sorte de terreur superstitieuse s'empara de l'esprit du jeune homme, affaibli par la longue maladie qu'il venait de subir. Il se demanda si cette maison étrange dans laquelle il venait de pénétrer ne renfermait pas quelques mystères infernaux. Il se demanda si cette fille du diable que Déborah allait rejoindre n'était pas une créature satanique. Mais cette hallucination ne fut point de longue durée.
Raoul sourit presque aussitôt de sa folle frayeur. Il continua son ascension et il atteignit le second étage. La porte en était ouverte, et à côté de cette porte se tenait debout une petite créature bizarre et ridicule, qui ressemblait assez bien à l'un de ces gnomes gardiens de trésors dont les légendes du Moyen-Âge peuplaient les royaumes souterrains. Ézéchiel Nathan, car c'était lui-même, n'avait pas plus de 4 pieds de haut. Il était bossu comme il signore Pulcinella, c'est-à-dire par devant et par derrière. Son visage, anguleux et jaune comme l'écorce d'un citron, offrait une expression joviale qu'on ne s'attendait point à trouver sur une figure d'usurier, et qu'augmentait encore 2 petits yeux clignotants et réjouis, et le sourire permanent d'une bouche large et garnie de dents longues et pointues. Le crâne complètement chauve d'Ézéchiel contrastait avec sa barbe rousse et touffue, mêlée de mèches blanches et tombant jusque sur sa poitrine. Le juif s'enveloppait avec une certaine coquetterie dans les pans d'une vieille robe de chambre de lampa orientale très fanée. Ce petit personnage grotesque pouvait avoir 65 ou 66 ans environ. Raoul le regarda avec stupeur et fut saisi, à son aspect, d'une violente envie de rire qu'il ne réprima qu'à grand-peine. « Quoi ? » se dit-il intérieurement. « C'est là le père de cette Déborah charmante, de cette belle créature que je voyais il n'y a qu'un instant ?» Si cela est, la nature, il faut en convenir, se montre parfois bien bizarre dans ses fantaisies. Et le jeune homme ne put s'empêcher de former des conjectures assez injurieuses à l'endroit des vertus de Madame Nathan et de sa fidélité conjugale. Raoul avait peut-être tort. On peut greffer les plus belles roses sur la tige déjetée d'un églantier sauvage. « Entrez, mon gentilhomme, entrez !» dit le juif à Monsieur de la Tremblay. « C'est moi qui suis Nathan. C'est à moi que vous avez affaire. » Raoul suivit le juif à travers 2 ou 3 chambres encombrées de ces objets incohérents qui, de temps immémorial, peuplent les logis d'usuriers et qui, sans aucun doute, les peupleront toujours. La maison d'Ézéchiel, fort étroite, nous le savons, était excessivement profonde, ce qui nous explique cette enfilade de pièces. Enfin, les deux hommes arrivèrent dans un petit cabinet où le juif recevait habituellement ses clients. Au milieu de ce cabinet était placée une massive table d'ébène sur laquelle se voyaient des balances à peser l'or. Au fond de la pièce se trouvait un coffre de fer. Le petit juif, toujours souriant et sautillant sur la pointe de ses pieds noueux pour augmenter de quelques lignes sa taille exiguë, avança un siège à Raoul et s'assit lui-même dans un vieux fauteuil de point de Hongrie derrière la table d'ébène. « Me voici à vos ordres, mon gentilhomme, » dit-il alors. « Qu'y a-t-il pour votre service ?»«
Je voudrais de l'argent, » répondit Raoul.
« Oh, je le pense bien. On ne vient guère chez le vieux Nathan que pour lui en demander. Seulement, l'argent est bien rare, et j'espère que vous n'en voulez pas beaucoup.
50 ou 60 louis, si cela est possible.
Vous avez un gage à m'offrir, je suppose, car vous comprenez, mon gentilhomme, que n'ayant point l'honneur de vous connaître, il me serait tout à fait impossible de me contenter de votre signature.
« Oui, répliqua Raoul, j'ai un gage.
Lequel ?
Celui-ci. »
Et le jeune homme tira de sa poche la montre enrichie de diamants qu'il présenta à Ézéchiel. Ce dernier tendit pour la recevoir sa main, que nous appellerions plus volontiers une griffe crochue. Il examina de près le bijou et ses regards étincelèrent de ce feu sombre de la cupidité que Metsu, Mieris et plus récemment Couture ont mis dans les yeux de leurs avares.
« Montre de famille, n'est-ce pas ? » demanda-t-il ensuite après avoir examiné les armoiries de la Tremblay qui étaient émaillées sur la boîte de la montre.
« Oui, » répondit Raoul.
« Vous devez y tenir. »«
J'y tiens. »«
Alors, vous ne vendez pas, vous engagez. »
« Justement. »
« Et combien demandez-vous ? »
« 50 ou 60 louis, je vous le répète. »
On eût dit que le sourire d'Ézéchiel était à ressort tant il disparut soudainement.
« Diable ! Diable ! » murmura-t-il.
Et il recommença à soupeser la montre et à compter les diamants.
« Je prêterai 50 louis, » dit-il au bout d'un instant. « Pas plus, et c'est beaucoup. »«
Soit, » répondit Raoul.
« Maintenant, voici mes conditions.
Il est inutile de les discuter. C'est à prendre ou à laisser. Voyons. Je vais vous remettre 50 louis et garder la montre.
C'est convenu.
Je vous prêterai cette somme pour un mois.
Aussi peu?
Mettons 6 semaines, mais pas un jour avec.
Eh bien?
Eh bien, si dans 6 semaines vous ne m'avez pas rapporté 60 louis, la montre m'appartiendra.
Quoi?
S'écria Raoul. 10 louis d'intérêt pour 50? Et en 6 semaines?
Mon Dieu, oui.
Mais c'est une horreur!
Bah,
répliqua Ézéchiel dont le sourire était revenu.
Si à l'échéance vous ne pouvez pas payer, il vous est fort indifférent que la somme soit un peu plus ou moins forte.
Si au contraire vous avez de l'argent, qu'importe quelques louis de plus ou de moins.
Ce raisonnement captieux parut assez logique à Raoul, qui n'était point un calculateur bien exercé.
Ézéchiel, voyant que cependant il hésitait encore, se hâta d'ajouter.
D'ailleurs, j'ai dans l'idée que ces 50 louis vous porteront bonheur. Je me figure que vous allez gagner cette nuit des tonnes d'or et que dès demain, vous viendrez me redemander votre montre.
Gagner des tonnes d'or ? Répéta Raoul, pour qui ces derniers mots n'offraient aucun sens distinct.
Comment pourrais-je les gagner, je vous prie ?
Mais en jouant, ce me semble.
En jouant ? Où donc ?
À ça ? Fit le juif fort étonné. « Ce n'est donc pas pour aller au jeu que vous me demandez de l'argent ?»«
Non, en vérité. »«
Alors, monsieur, excusez mon erreur. L'hôtel qui touche à ma pauvre demeure est une maison de jeu fort brillante où tous les jeunes seigneurs de Paris se réunissent chaque nuit. En vous voyant vous adresser à moi, à cette heure, j'avais naturellement supposé que vous vouliez tenter la fortune. Je m'étais trompé. Encore une fois, pardon. »
Mais Raoul n'écoutait pas les excuses du juif. Ce mot « jeu » venait de faire vibrer en lui une corde inconnue jusque-là. Une idée fixe, une idée ardente, venait de s'emparer de son esprit.
Jouer, gagner, devenir riche.
« Oh, mon étoile » murmura-t-il, « mon étoile, c'est toi qui m'as conduit ici. »
Et il ajouta tout haut, « Mes 50 louis, donnez, donnez !»«
Les voici, » répondit Ézéchiel en étalant devant Raoul, 2 petites piles d'or de 25 louis chacune.
« Merci, » dit le jeune homme avec une si grande assurance qu'elle ressemblait à une certitude. « Demain, je vous rapporterai votre argent et je reprendrai ma montre. Merci. »
Et reconduit par Ézéchiel qui l'accompagnait en souriant et en sautillant, il quitta le logis de l'usurier.
Où allait Raoul ? Nos lecteurs le devinent. Il courait à la maison de jeu qui l'attirait invinciblement désormais, comme l'aimant attire l'acier. Cette maison, nous ne la décrirons pas. Nous y avons déjà conduit nos lecteurs. Nous savons qu'on y jouait un jeu effréné et que l'or, jusqu'au matin, ruisselait sur les tapis verts. Un axiome, fort contestable selon nous, affirme que l'aveugle fortune, qui préside aux jeux de hasard, ne manque jamais d'accorder ses faveurs à l'amant novice qui les lui demande pour la première fois. Toujours est-il que cette nuit-là, l'axiome vrai ou faux que nous venons de citer reçut une confirmation éclatante. En moins de 4 heures, sans une seule intermittence et avec une chance prodigieuse, Raoul gagna 200 000 livres. Au milieu de cette incroyable fortune, le jeune homme conserva un sang-froid qui n'était pas moins étrange que son gain lui-même. Il bourra ses poches d'or et de billets de caisse. Il alla à une fenêtre qu'il ouvrit. Il regarda le ciel, dans lequel étincelaient encore quelques étoiles que les premières clartés de l'aube allaient bientôt faire pâlir.
« Oh, mon étoile » murmura-t-il alors, « tu es là, je te reconnais. »
Puis il jeta sur ceux qui l'entouraient un regard orgueilleux et dominateur, et de ses lèvres tombèrent ces mots.
« Maintenant je suis riche, à moi la vie, à moi l'avenir. »